que les lecteurs de la Bible connaissent dans Actes au chapitre 9. Et si nous en avions le temps, nous allons parler sur un verbe qui se trouve bien sûr dans la parole de Dieu, le verbe ouvrir. Mais nous allons voir ensemble déjà ce texte, et pour cela je vous invite à ouvrir votre Bible ou votre Nouveau Testament. Voyez, on commence déjà par le mot ou le verbe ouvrir. Voilà, au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Voilà, et je lis ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Gloire à Dieu. Et nous connaissons, en tant que lecteurs de la Bible, le ministère que l'apôtre Paul a accompli pour son Seigneur. Alléluia. Mais nous allons nous arrêter quelques moments sur cet exemple que l'apôtre Paul a connu dans le texte. Car il y a là des versets qui parlent d'une manière claire pour chaque enfant de Dieu et surtout pour notre croissance spirituelle. Il y a parfois des raisonnements qui sont erronés quand nous sommes enfants de Dieu, et je crois que nous devons prendre garde sur les raisonnements qui nous amènent dans des égarements ou dans des erreurs ou dans des prises de position qui ne sont pas tout à fait à la gloire de Dieu et qui en tout cas sont des freins pour notre progression spirituelle dans la foi, dans l'exercice des dons, etc., pour la gloire de Dieu. Alors, l'exemple de l'apôtre Paul, il est clair. Vous n'êtes pas sans savoir que l'apôtre Paul, avant donc s'appelait Saul, et que ce jeune homme, on va dire, avait la connaissance de la loi divine. Il a été élevé au pied d'un homme qui s'appelait Gamaliel, et cet homme Gamaliel lui a enseigné toute la loi divine. Donc il connaissait parfaitement les lois de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, en lui est née cette opposition à ce que l'on pourrait appeler la nouvelle doctrine des temps, puisque le Seigneur Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Les gens se sont repentis, ceux qui ont cru se sont repentis, il y a eu des prodiges, des miracles, l'Église est née, et voilà que cet homme, Saul, va devenir un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, et Jésus va intervenir pour arrêter cet homme dans sa folie et dans la folie de détruire l'Église de Jésus-Christ. Et là, c'est quand même un exemple extraordinaire. Un homme qui connaît la loi divine va s'opposer à Dieu, et Dieu va intervenir en arrêtant cet homme dans sa folie. Et là, il y a quelque chose de précis que je souligne. Il y a eu, et nous l'avons lu, ce dialogue entre Saul et le Seigneur Jésus, qui se terminera par cette question: que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur va lui montrer tout ce qu'il va faire. Et en même temps, en lisant les paroles que Dieu ou Jésus a données, ou le Seigneur a données à Ananias, il lui a dit: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Je ne voudrais décourager personne ce matin, mais la vie d'enfant de Dieu n'est pas une vie facile. C'est clair. Si nous nous convertissons avec cette pensée de dire « Jésus, tu es devenu mon maître et ma vie va devenir une vie facile », permettez-moi de vous dire avec beaucoup d'affection, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La vie du chrétien n'est pas facile. Et sans vouloir encore une fois vous peiner, elle va même devenir de plus en plus difficile. Parce qu'il va y avoir de plus en plus d'opposition contre les chrétiens fidèles à Jésus-Christ. Donc la vie qui est devant nous n'est pas un avenir, je dirais, trop glorieux, bien que si je pousse le raisonnement jusqu'à ce qui est spirituel, pour le chrétien, s'il y a de l'opposition, s'il y a des difficultés, si le combat devient difficile, il sera glorieux parce qu'un jour le chrétien fidèle rentrera dans la vie éternelle. Mais en attendant, il faut passer ce chemin que nous avons à accomplir sur la terre. Mais étant enfants de Dieu, nous ne l'accomplissons pas tout seuls. Nous l'accomplissons dans la présence du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit et avec pour guide la parole de Dieu. Et nous devons vivre ce que nous enseigne la parole de Dieu dans tous les temps et dans toutes les circonstances. Maintenant, notons que il y a là quelque chose qu'il faut souligner dans ce texte que nous avons lu, c'est que quand le dialogue entre Saul et le Seigneur Jésus fut terminé, il nous est dit que l'apôtre Paul avait les yeux ouverts et il ne voyait rien. C'est formidable, ça. Oui ? Non ? Je me demande... Et je me mets dans le lot, hein. Je me demande si de temps en temps, nous qui avons la connaissance, comme l'apôtre, comme on va dire Saul pour l'instant, Saul, il avait la connaissance, il rencontre le Seigneur, il dialogue avec le Seigneur, il dit cette phrase que nous venons de citer, « Que veux-tu que je fasse ?» Et quand il se relève, il a les yeux ouverts et il ne voit rien. Et je me demande si parfois les chrétiens n'ont pas les yeux ouverts et ils ne voient rien. Dites pas tous amen. Je comprends que vous ne disiez pas amen de toute façon. Seigneur, je te connais. Seigneur, je te suis. Seigneur, je vis pour toi. Mais Seigneur, j'y vois rien. J'y vois rien parce que tu veux rien voir. Tu vois rien parce que tu n'as pas fait une véritable conversion. Parce que normalement, le chrétien ouvre les yeux pour que je voie. Ça doit être sa prière. Et je dois donc plonger mes regards, non pas sur ceux qui m'entourent en fait, mais je dois plonger mes regards sur la parole de Dieu, sur la confiance en Dieu. Et alors là, je ne serai plus dans les ténèbres, mais je serai dans la lumière. Et mes yeux, n'étant plus dans les ténèbres, je contemplerai la gloire du Seigneur. Le chrétien n'est pas un aveugle. Vous savez qu'un jour, le Seigneur Jésus a parlé justement à des hommes qui avaient aussi la connaissance, et il a dit à qui voulait l'entendre, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, et ils tomberont tous les deux dans le même trou. Moi, je ne veux pas aller dans le trou. Quoique, si le Seigneur ne revient pas, vu ma jeunesse, je risque de passer dans le trou, mais avant d'être dans le trou, je serai dans quatre planches. Et je sais une chose, c'est qu'un jour, je quitterai le trou, je quitterai la boîte, et je rentrerai sur la place que Jésus m'a réservée. Et ça, c'est tout ce qui est réservé à ceux qui s'attachent à lui, à ceux qui vivent avec lui. Alors quand tu dis « j'ai les yeux ouverts », es-tu certain de les avoir bien ouverts ? Non seulement il avait les yeux ouverts, mais en plus le texte nous dit qu'il a eu des écailles sur les yeux. Et il ne savait même plus où aller. Il a fallu que des gens le prennent pour le guider, le diriger, pour l'amener jusqu'à Damas, à la rue qui s'appelle la droite. Là, il est resté là. Et puis Dieu va avoir... cette volonté d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait dit à l'apôtre Paul, enfin oui, on peut l'appeler l'apôtre Paul maintenant, il a dit je vais agir pour lui et je vais en faire un instrument pour ma gloire. Mais réfléchissons deux secondes, pour être un instrument pour la gloire du Seigneur, il fallait qu'il soit guéri. Ah oui, il fallait que ses yeux s'ouvrent. Pas uniquement d'une manière naturelle pour voir tout ce qui se passe autour de lui. Ça va se faire. Mais pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'attache à Dieu pour un service à la gloire de Dieu. Et pour, par son service, amener d'autres âmes à la vérité. Et aussi, toujours dans son ministère, instruire l'Église. Où les églises par lesquelles il a passé, qui ont été fondées par le Saint-Esprit, il a été cet instrument. Mais il a resté, vous l'avez lu comme moi tout à l'heure, il est resté 3 jours et 3 nuits dans la maison, là, dans le noir, mais sa pensée était vers le Seigneur. Vous voyez où ? Ananias a été, comment dire, appelé et envoyé par le Seigneur aussi, auprès de Paul. Et quand Ananias a prié, c'est là qu'on a lu tout à l'heure, et les écailles tombèrent de ses yeux. Le miracle fut accompli. Gloire à Dieu ! C'est formidable, hein ? Maintenant, je vais vous poser une petite question. Vous savez, j'aime bien hein, les chrétiens ici que savent. De temps en temps, je pose des petites questions pour que vous réfléchissiez et que vous répondiez. Mais il n'y a pas de récompense. La récompense, elle est au ciel. Et comment ça se fait que Dieu, au bout de 3 jours, a dit à Ananias d'aller dans la rue, donc il donne même l'adresse, etc. Ananias, il arrive. Vous avez remarqué ce que Dieu dit à Ananias dans la vision, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que vous l'avez noté ? Au sujet de Saul. Pardon ? Ouais, non, ça c'est vrai. Mais avant, il a dit quelque chose d'important. En ce qui concerne Saul, vous l'avez oublié. Alors je comprends. Je comprends pourquoi des fois, on ne voit rien. On ne comprend rien. Si vous avez bien donné, il est écrit, attendez que je revienne sur ma petite note là, et il est dit ceci dans Parole vivante, c'est encore bien plus précis, du verset 11, il dira, tu le trouveras en train de prier. Voilà le secret. La lecture et la prière pour avoir les yeux ouverts sur la gloire de Dieu, sur les promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. Alléluia! Pour voir le danger de l'adversaire, pour ne pas succomber aux tentations que le monde nous présente. Et le monde, c'est le diable qui veut notre destruction. Le diable ne veut pas qu'on arrive au ciel, mais il veut nous détruire individuellement, collectivement. C'est son boulot. Et il met tout en œuvre pour essayer de nous détruire. Mais celui qui sera vainqueur, c'est celui, comme dit Jésus, qui veille et qui prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut avoir notre temps de prière individuel. Mais il faut aussi avoir notre temps de prière collective. Amen. Alléluia. La prière, c'est l'arme efficace, individuellement, familialement, et pour l'Église. Il est dommage parfois de remarquer, ne prenez pas ça au brousse-poil, hein, mais il est dommage de remarquer que les réunions de prière, c'est plutôt clairsemé, alors que c'est aussi le fer de lance de l'Église. Vous savez, quand j'étais tout petit, moi je bénis le Seigneur. Mes parents se sont convertis quand j'avais... Bon, je résume parce qu'il y a tellement de choses à dire quand on vit avec le Seigneur, mais il y a des prises de position qui vous marquent. Donc quand ils se sont convertis, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont été des chrétiens fidèles jusqu'au bout. Et moi j'étais à peine âgé de 5 ou 6 ans là. Et je me souviens que mon père, le soir, il nous prenait, ça remonte à quelques années, hein, aux années 56, 55, il nous prenait le soir autour de la table. Et il lisait la parole de Dieu où, en ce temps-là, il n'y avait pas encore un espèce d'écran. Là. Alors il sortait le petit transistor, il se mettait, je m'en souviens encore, hein, Radio Monte Carlo, et il prenait une émission évangélique. Alors, c'est pas Christ vous appelle, c'était ceux qui étaient avant. Donc, il nous mettait cela, on était tous autour, on écoutait. Ma maman, mon papa et mes deux frères, les cinq, là. Et après, il disait, maintenant on prie. Et on priait. Et on allait se coucher après. Vous voyez ? Alors ça c'est bien, c'est familial, mais quand quelqu'un venait, il nous arrivait de recevoir dans la maison des chrétiens, quand nous étions en Algérie, on recevait dans notre maison les militaires qui venaient sur la base, sur ce pays, et on les gardait le samedi soir, on les prenait parce qu'ils n'avaient pas de famille, ils étaient seuls, alors on prenait un, deux, mais tous les soirs, qui que ce soit qui était là, on se réunissait, on priait, on allait se coucher. Et l'efficacité de la prière. Je peux vous dire qu'on a vu des miracles se faire. Alléluia. La prière. Et Dieu a vu la Saul qui était justement lui en prière. Parce qu'il avait la connaissance, on l'a dit tout à l'heure, la connaissance de la loi divine. Il devait aussi connaître que Dieu demandait à ceux qui étaient dans la souffrance de l'invoquer. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Mais permettez-moi de vous dire, pas que quand je suis dans la détresse. Tous les jours, je dois invoquer le nom du Seigneur. Quand tout va bien, je le loue. Quand tout va mal, je le loue et je dis merci parce que tu vas me bénir. Alléluia. C'est ça la vie du chrétien. Il faut être actif. Il faut participer à la vie chrétienne. Et c'est cela qui nous fait voir la gloire de Dieu. Il faut s'attacher à Dieu, c'est vrai, s'attacher à sa parole, mais la vivre, ce n'est pas la connaissance qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la mise en pratique de la parole, c'est d'avoir une vie vivante dans l'Esprit de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Car en cela, vous ne verrez rien si vous avez des écailles sur les yeux. On ne peut pas avoir une vie de chrétien, comment dire, de dilettante. Tout va bien. Alors je prie de temps en temps, je loue de temps en temps, peut-être je chante de temps en temps, si on a le temps, mais on n'aura pas le temps. On aurait pu voir ça, ce sera peut-être pour le dimanche d'après. Mais c'est ça la vérité, c'est de rester toujours confiant et fidèle, quels que soient les temps et les circonstances. Alléluia. Vous me permettez de vous lire un texte de la Bible, hein, tiré de paroles vivantes, mais vous pouvez l'avoir sur votre... dans la deuxième épître de Paul, de Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 9, écoutez bien. C'est un enseignement et un avertissement que donne Pierre à l'Église. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Alors ça nous appartient, faites tous vos efforts. Pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin. L'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui, afin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Alléluia. Si vous possédez ces qualités, et si vous les développez sans cesse jusqu'à être rempli, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruits. Vous savez qu'il nous est recommandé de porter du fruit à la gloire de Dieu. Et que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Attention, parce que, permettez-moi une petite parenthèse, et ne soyez pas là encore vexés, hein, c'est la parole de Dieu. Mais dans notre jardin, on a un arbre abricot, le pauvre. Il pousse, mais il n'a pas trop de fruits. Et quand on s'approche de l'arbre, il y en a quelques-uns, c'est déjà pas mal. Alors tiens, il a fait des fruits, mais quelle déception! Parce que quand on s'approche de l'arbre pour voir l'abricot, il est déjà pourri sur l'arbre. Expliquez ça avant. Comprenez l'image? Je dois produire des fruits, mais de bons fruits! Pas de fruits pourris. Quelle est notre réaction quand on s'approche du fruit? Il a l'air d'un côté beau, mais de l'autre, il est pourri. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le laisse, on est déçu. Et imaginez les gens à qui on dit on est chrétien, mais en fait, on porte un fruit pourri parce que notre vie n'est pas en conformité avec la parole. Alors, on ne peut pas porter un fruit qui glorifie Dieu. Et plutôt que d'attirer les âmes, on va les faire fuir. Est-ce que c'est ça? C'est pas du tout ça. La Bible dit que nous sommes appelés des gagneurs d'âmes. Alors, il faut aller les chercher. Hein. Il faut les attirer. Avec amour. C'est bien ce qu'on a lu tout à l'heure, qui vous conduira dans l'amour fraternel, dans l'amour pour les autres. Alléluia! Mais il faut respecter tout ce qui est avant. Alléluia! Gloire à Dieu! Ouais. Alors, bon, moi je ne fais que lire, parce que vous êtes peut-être en train de dire, oh, le frère, il y va un peu fort là. Non, moi je lis ce qui est écrit. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez avec la Bible. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? Chacun pour soi et Dieu pour tous, disait quelqu'un. Alors je vous lis la conclusion de ce texte. Celui à qui est le fond des faux, des qualités, celles que nous avons citées, est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Alors, comment allait notre vue ce matin, frères et sœurs, avec beaucoup d'amour? Elle est courte. Elle est brumeuse ou aveugle? Ça fait réfléchir, non, quand on lit des textes comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors aujourd'hui, naturellement, quand on s'aperçoit qu'on a des problèmes aux yeux, on fait tous pareil. On va voir qui? Un ophtalmo. Et il va nous regarder, tac, tac, oh là là, vous avez un début de cataracte, oh là là, vous êtes myope, oh là là, vous êtes presbyte, et vous sortez avec une paire de lunettes. Ça s'appelle la rectification. Ouais, mais spirituellement, comment on fait pour rectifier la vue? On ne va pas les trouver. Le docteur spécialiste des yeux, il dit, voilà, j'y comprends plus rien au niveau de la foi, vous pouvez m'expliquer, vous pouvez me rectifier, il va vous dire, ça va pas, non, allez voir un psy. C'est un problème. Alors on dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Et figurez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, en ce qui concerne la dernière église, vous le relirez à la maison, mais vous avez la connaissance, il est dit que, c'est au chapitre 3, il est dit à une certaine église, et je te conseille d'acheter de moi un collyre pour le mettre sur tes yeux. Ouais, alors frère, c'est vrai, mais où on l'achète le collyre? À quelle pharmacie? Oui, mais comment? Le collyre, il faut que ce soit concret. Dans la lecture de la parole de Dieu et la prière. Plus je lis la Bible et plus je prie, plus je vois la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, parce que Saul va vivre le miracle de la délivrance. Non seulement physique, moral et spirituel, parce que vous l'avez lu comme moi, il se fait baptiser et il prend le chemin de la prédication. Alléluia. Alléluia. Ne pensez-vous pas, mes frères et sœurs, qu'il faudrait de temps en temps dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie. Mais il est bon aussi de se souvenir que c'est en étant attaché à la parole de Dieu, à notre vie de chrétien fidèle, que nous connaîtrons et que nous verrons la gloire de Dieu dans les temps présents et dans l'avenir. Et si même, comme nous le disions en introduction, nous sommes au milieu du combat, le Seigneur ne nous laissera jamais. Tous les jours, il nous fortifiera. Alléluia. Et si jamais je suis malade, et je prie le Seigneur pour être guéri de ma maladie, et je souffre de ma maladie, des douleurs, et c'est vrai que nous prenons compassion de tous ceux qui sont malades et qui souffrent, mais il n'y a pas que des souffrances physiques, il y a aussi des souffrances morales, il y a des situations difficiles dans les foyers, mais quand on est chrétien, on s'attend au Seigneur. Et je suis là en train de parler avec vous et je réfléchis en disant, mais Seigneur, si tu ne me guéris pas, qu'importe, pourvu que je te sois fidèle, parce que ce qui importe, c'est que je sois sauvé pour l'éternité. Là-haut, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de larmes. Si aujourd'hui je dois connaître ça, je compte sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Alléluia. Sur ta grâce. Parce que sans ta grâce, je suis rien. Et si nous sommes sauvés, enfants de Dieu, c'est par grâce. Et si nous arrivons dans le ciel, c'est encore parce que la grâce de Dieu aura été là 24 heures sur 24 heures, manifestée au travers du nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit et nous démontre que Dieu ne change pas. Et pour connaître sa victoire, ici-bas et dans le ciel, il faut nous attacher à lui. Dans 2 Jean au chapitre 1, verset 9, parole du semeur, il dit « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme un fils. » Alléluia. Si je veux prendre le titre de fils de Dieu et le garder, il faut que je reste attaché à Dieu. Attaché à sa parole, que je la vive et que je l'expérimente et que je la communique afin que d'autres puissent être sauvés comme il m'a sauvé. Et puis il y a aussi Romains au chapitre 8, verset 14 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. Donc nous avons besoin de nous tenir dans la présence du Seigneur, non seulement pour invoquer son nom, non seulement pour le louer, non seulement pour avoir sa parole, mais encore nous devons dire « Seigneur, renouvelle-moi dans la vie du Saint-Esprit et vivifie-moi jour après jour. » Alléluia. Alors, je vais quand même ouvrir ce point-là, puisque nous y sommes dessus, ouvrir les yeux. Ouvre-moi les yeux, c'est ce que nous devons demander entre autres, et puis on verra d'autres points la prochaine fois si Dieu le veut. Dans le psaume 119, verset 18, c'est beau ce verset, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Amen. Ce qui veut dire que quand j'ouvre la Bible, je me dis que les paroles sont belles. Hein ? Gloire à Dieu. Et c'est tellement beau, hein, quand je lis la parole. Ne crains pas, crois seulement. Ah, merci Seigneur. Quand il dit, oh, reste fidèle. Oh, merci Seigneur. Quand on lit, je connais ta situation, je suis près de toi. Alléluia. Puis d'un seul coup, on voit, tu as péché. Tu as péché ? Mais ce n'est pas pour moi, ça. Non, non. Je suis trop bien, moi. Je n'ai pas péché. Oui. Pourtant, il est écrit quelque part dans la Bible que le Seigneur nous reprend dans notre cœur. Ni vous, ni moi, nous sommes parfaits. Ce qui veut dire, quand je lis la Bible... Comme l'auteur de ce verset, je peux dire, je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Et je dois ajouter, Seigneur, je suis heureux et content quand tu m'encourages, mais je suis heureux et content quand tu me reprends. Amen. Je vais poser une question... Je ne vais pas oser la poser aux ados qui sont là, mais aux grands déjà qui sont là, aux adultes. Qui parmi vous a aimé la correction dans le passé de la papa, de la maman ? Ouais, est-ce que ça vous faisait plaisir ? Hein, ça ne vous faisait pas plaisir, hein ? Moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. Je crois que je l'ai dit, je ne sais pas si c'est ici ou à Rumi, mais il faut dire que nos parents, quand ils nous donnaient un petit peu la fessée, eh bien, ça ne nous faisait pas plaisir. Enfin, quand mon papa, moi, il me donnait la fessée, alors là, j'avais tout à craindre. Mais quand c'était ma mère, c'était une petite dame un peu chétive sur les bords, et quand elle le tapait, eh ben, elle se faisait mal elle-même. Alors moi, je lui disais, oh, les enfants, ils sont malins, tu peux taper, je ne sens rien. Alors elle a changé de tactique après. Elle a pris la savate. Et je n'ai jamais dit à mes parents, vous ne m'aimez pas. Parce que je savais qu'ils m'aimaient. Et que la correction était justifiée. Vous savez qu'il y a un verset de la Bible qui faut dire « Amen » et le mettre peut-être dans notre salle à manger. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Pour quel motif ? Pour ne pas qu'il se perde. Parce qu'il veut que tous arrivent à la vie éternelle. Alors, ne disons pas « Seigneur, sauve-moi » et pour cela, tape-moi ! Non ! Il n'agira dans sa... entre guillemets, correction, que si je lui désobéis, que si je m'égare, que si je m'oppose à lui, à sa volonté, à son amour. Si j'accepte ce qui me dit, si je fais sa volonté, il n'a pas raison de me corriger. Vous savez, aujourd'hui, alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on entend que si les parents ils corrigent leurs enfants, les enfants ont un numéro auquel ils peuvent téléphoner. Mais vous savez que tout ça, c'est quand même en contradiction avec la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible, excusez-moi la jeunesse, et j'espère que vous êtes sages auprès de vos parents, mais il est quand même dit, ne ménage pas la verge à ton enfant, car il le retrouvera. Bon, les parents n'en profitaient pas pour dire, le pasteur l'a dit, il faut que je tape. C'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la correction, elle est parfois nécessaire. Bah, je me souviens, et là, ce n'était pas mes parents. Bon, j'étais un garçon comme tous les garçons hein, de mon âge, comme vous. Hein, je suis allé à l'école, hein, comme vous, hein, notamment à l'école primaire. Et on avait des instituteurs, maintenant qu'on appelle professeurs d'école. Ils sont montés en grade. Mais j'avoue, parce que ne croyez pas que j'étais un petit saint hein, dans le passé. Non, j'ai fait mes expériences. Mais alors, j'avais un instituteur, il était doué. Très doué. Parce que quand il voyait ses élèves, dont je faisais partie, qui étaient un peu bruyants, qui discutaient, qui n'étaient pas sérieux, il prenait la sacrée. Et il ne loupait pas la cible. Bon, une craie. Encore, ça passe. Mais quand il prenait la brosse à essuyer le tableau auquel vous arrivez dessus, un peu, je peux vous dire qu'après, vous restez tranquille. Et quand j'avais, entre nous, j'avais pas intérêt d'aller trouver mon père, il dit, tu sais, papa, l'instituteur, il a fait ça. Il dit, pourquoi? Pour ça, paf, et une autre. Alors, dans ces cas-là, je m'adresse aux ados. Si vous arrivez un tel problème, ne dites rien à vos parents à l'arrivée. Hein, parce que vous avez le double. Vous avez la TVA en plus. Ouais. Et Dieu agit de temps en temps pour nous faire comprendre que nous sommes dans l'erreur et l'égarement. Et qu'il est bon et qu'il est temps pour nous de revenir. Dans Jacques, j'arrive à la fin de ce point-là. Jacques, chapitre 1er, verset 25, parole vivante. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, donc la parole de Dieu, la loi parfaite, qui donne la vraie liberté, la loi parfaite donne la vraie liberté, et s'il étudie assidûment, c'est-à-dire tous les jours, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Amen. Il y a, si je ne me trompe pas, parce que ce n'est pas dans ma catégorie, ça, mais il me semble qu'il y a un chanteur qui dit « Où il est le bonheur ?» Où il est le bonheur? Je le connais pas. Si je le rencontrais, tu cherches le bonheur? Eh bien, ouvre la parole de Dieu et tu trouveras le bonheur. Tu trouveras la source de bonheur. Il s'appelle Jésus. Et si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia! Gloire à Dieu! Cherchez le bonheur. Ne jouez pas au loto. Ça ne changera rien à votre vie. Il y a des gens qui jouent au loto toute leur vie. Parce qu'ils espèrent qu'en ayant une fortune, ils trouveront le bonheur. Mais ne s'aperçoivent pas que leur porte-monnaie se vide. Et après, on fait comment pour la fin du mois? C'est ça le bonheur? Pas le bonheur, ça. C'est vrai qu'on peut avoir des joies et des satisfactions dans le monde. Mais le chrétien doit faire la différence. Et le véritable bonheur, c'est de vivre avec Jésus-Christ. Hein? Le bonheur, c'est pas de courir derrière un ballon. Pendant un mois, on a vu des gars qui couraient derrière un ballon. Vous n'avez pas vu ça? Puis ils se disputent le ballon. Puis ils se font des crocs à jambes pour prendre le ballon. Mais moi, j'ai la solution. Donnez-leur à chacun un ballon, il n'y aura plus de dispute. Ouais. Vous courez après le bonheur, vous courez après un ballon, vous ne l'attrapez jamais. Mais moi, je vous dis, vous voulez le vrai bonheur? Eh bien, tournez-vous vers le Seigneur. Vivez sa parole. Ne dites pas, j'ai reçu le Seigneur et puis maintenant, tranquillou. Non. Vous allez me dire, je suis baptisé. Alléluia. Paul aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert pour Jésus-Christ. Ah oui. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la vie m'est réservée. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai été laissé pour mort à cause de Jésus-Christ. Oui, j'ai connu la souffrance, j'ai connu la disette. J'ai travaillé même pour pouvoir me nourrir. Vous avez eu en temps l'amour et la fraternité de m'aider. Mais j'ai souffert. Je sais que le Seigneur m'avait dit que je souffrirais pour son nom. Mais je suis sauvé. Alléluia. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Je pourrais aussi dire qu'en est-il de moi? Faisons-nous la volonté de Dieu. Faisons-nous ce qu'il nous demande. Avons-nous les yeux ouverts sur sa parole? Avons-nous les yeux ouverts sur son amour? Un amour éternel. Il a tout fait pour que nous soyons sauvés. Il a tout fait pour que nous soyons heureux. Il a tout fait pour que nous connaissions le bonheur, même dans notre malheur. Il a tout accompli. Et nous, que faisons-nous de lui? Que faisons-nous de son enseignement? Que faisons-nous de sa parole? Que faisons-nous de son esprit, qui par certaines situations est parfois écorché? Seigneur, rends-nous semblables à toi. Rends-nous semblables à toi. Alors, je termine en vous disant qu'on peut dire, oh, c'est difficile, la vie du chrétien, je veux bien rester, mais c'est tellement difficile. Il y a tellement de combats, il y a tellement de luttes. Alors, dans la parole de Dieu, ça sera mon dernier exemple. Il est parlé d'un prophète qui s'appelle Élisée. Et puis d'un ennemi du peuple d'Israël, un Syrien, qui, un jour, parce qu'il voulait conquérir le territoire, a été obligé de demander à ses conseillers, mais qui c'est qui dit que nous allons faire ceci ou cela, et par rapport à cela, eh bien, le peuple d'Israël prend les dispositions nécessaires pour que nous n'ayons pas de victoire. Alors, il y en avait un au milieu, il a dit, mais oui, moi je sais. Moi je sais, parce que là-bas, ils ont un homme qui s'appelle Élisée, c'est un prophète. Et il leur dit, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout, il le dit. Alors, Élisée était allé dans la ville de Dothan avec son serviteur. Et dans la nuit, comme le roi de Syrie a appris où il était, il a envoyé toute son armée, des soldats, des chars, pour prendre Israël, mais surtout pour prendre le prophète Élisée et l'oxyre, le tuer. On n'en parle plus. Et au petit matin, le serviteur s'est levé, il sort de la maison où il était, et d'un seul coup, il s'écrie, « Oh, maître, je vais prendre les termes d'aujourd'hui. C'est cuit, c'est foutu, ils sont tous là !» Il avait vu en sortant toute l'armée de Syrie qui est là autour, cernée, plus rien, on est cuit. Alors, Élisée est sorti. Là, je résume, hein, vous lirez ça hein, dans la parole de Dieu, dans le livre des rois. Il est sorti, il a contemplé, il a vu, et au lieu de s'affoler, il est d'un calme olympien. Il regarde son serviteur qui est apeuré, ne craint pas, n'aie pas peur, et puis il a élevé une prière. C'est pour ça que je vous dis ça en terminant, il a élevé une prière. Et il a dit à Dieu, il n'a pas dit fais fuir les Syriens. Il a prié pour son serviteur. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Vous en rappelez? Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Ah, ah, Et la prière fut exaucée. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et quand le serviteur a eu les yeux, non plus charnels, mais spirituels, qui se sont ouverts, au-dessus de l'armée des Syriens, il a vu l'armée de l'Éternel. Waouh ! Et ceux qui ont pris la tannée, c'est l'armée syrienne. Eh bien oui. Hein. Ouais, mais vous avez compris le message. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Et il va vous les ouvrir. Ne restez pas avec vos problèmes, vos difficultés. On les a, on les sait, elles sont là, ça devient difficile. Mais au-dessus de tout ça, il y a l'armée de l'Éternel. Il y a le Seigneur Jésus avec ses anges. Avez-vous lu qu'un jour le Seigneur, je termine, avez-vous lu que Jésus a été appelé à être condamné, crucifié, il a dit, mais si je veux, je demande des milliers d'anges pour venir me délivrer. Si le Seigneur Jésus dit cela, il peut nous envoyer tous les anges que nous voulons pour venir à notre aide. Et lui-même, n'est-il pas notre aide, notre secours, notre force, notre délivrance? Il l'est. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux sur lui. Ouvrons les yeux sur sa parole. Ouvrons les yeux sur l'action de son Saint-Esprit qui veut se faire en nous, qui veut nous donner de progresser et d'aller de l'avant. Ouvrons les yeux et glorifions son nom ensemble. Amen. Gloire à Dieu. On demande au Seigneur sa grâce et puis je crois qu'après il y a des annonces et les offrandes à faire. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole.